Bon, j'ai rappelé ici les deux prochains séminaires du mois d'octobre. Tout à l'heure, à 11h, Roland Kobesko du laboratoire de physique statistique de l'ENS va nous parler de superfluidité Bardeen-Cooper-Schiffer du lithium-6 gazeux ultra-froid. La semaine prochaine, ce sera François Birabin du laboratoire Cassler-Brossels de l'ENS à Paris qui nous parlera de l'atome d'hydrogène, de l'électrodynamique quantique, à la métrologie. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas de cours ni séminaire le 31 et que je vous donnerai la semaine prochaine, j'espère, donc le premier séminaire du mois de novembre. Je rappelle aussi l'adresse du site web où figurent les cours. Les cours sont mis sur le web le jour même avec la voix, donc vous pouvez le vérifier. Vous pouvez d'ailleurs, si vous avez une imprimante couleur, imprimer les transparents en couleur, ils sont disponibles en couleur sur le web. Franck Lallouet me dit aussi qu'il prépare des CD pour regrouper l'ensemble des cours des 15 dernières années, c'est ça? Des 15 dernières années du Collège de France. Il demande s'il y a 5 ou 6 volontaires qui accepteraient de tester ces CD, de voir si tous les liens marchent bien, fonctionnent bien, de manière ensuite à pouvoir en faire un nombre plus important. Donc s'il y a 4 ou 5 ou 6 volontaires, s'il vous plaît, venez nous voir à la fin du cours pour qu'on mette ça au point. Bon, alors, je rappelle très brièvement où nous en sommes. La semaine dernière, j'ai introduit un certain nombre de résultats généraux relatifs aux facteurs de structure et aux polarisabilités d'un système physique. Je vous rappelle que le facteur de structure dynamique représente en quelque sorte le facteur par lequel il faut multiplier la section efficace individuelle d'une particule pour obtenir la section efficace de n particules. Ça représente en quelque sorte les effets des interférences entre les amplitudes de diffusion des différents constituants du milieu. Et ça a donc des renseignements sur les fluctuations statiques et dynamiques du système diffuseur. Donc c'est une quantité qui joue un rôle très important dans la théorie de la diffusion de la lumière, par exemple. Alors je rappelle que une quantité qui joue un rôle absolument central dans cette théorie, c'est la densité spatiale de particules, l'opérateur densité spatiale, dont la composante de Fourier, rho Q, peut être écrite soit sous la forme sigma sur I de 1 à n de E puissance IQ scalaire, l'opérateur RI, position de la particule numéro I, ça c'est en première quantification, ou en seconde quantification, somme sur K de AK, AK plus K croix, où AK est l'opérateur de destruction d'une particule de K, de quantité de mouvement H bar K, et AK plus Q croix, l'opérateur création d'une particule d'impulsion H bar K plus Q. SQ de oméga, le facteur de structure dynamique, qui représente en quelque sorte la capacité du système à absorber une quantité de mouvement H bar Q et une quantité d'énergie H bar oméga, est donné par on part d'un système dans l'état psi initial, il faut prendre l'élément de matrice de Roq entre psi et un état final quelconque, prendre le modulo carré, multiplier ceci par une fonction de conservation de l'énergie delta de oméga moins oméga phi, où oméga phi est la fréquence de bord correspondant aux couples de niveau I et F, et sommer sur F. Voilà le facteur de structure d'un système dans l'état psi, dynamique. Le facteur de structure statique est tout simplement 1 sur n, une quotient de normalisation, l'intégrale sur oméga de S de Q et d'oméga, et je vous ai montré que l'interprétation physique de ces deux quantités en termes de spectre était très claire. SQ oméga représentait la répartition spectrale oméga de la particule diffusée dans la direction Q en fonction d'oméga, donc ça donnait un spectre de fréquence. Quant à S de Q, si on suppose qu'on est dans le cadre de l'approximation quasi-statique, c'est-à-dire qu'on peut faire varier oméga sans que Q varie beaucoup, à ce moment-là, S de Q, c'est l'intensité totale diffusée dans une direction Q. Et j'ai enfin introduit un certain nombre de résultats sur la polarisabilité, et en particulier, je vous ai montré qu'une quantité intéressante, c'est ce qu'on appelle le moment, M d'ordre K de Q, c'est, on prend le facteur de structure dynamique, S de Q oméga, on multiplie par oméga la puissance K, et on intègre sur D oméga, c'est en quelque sorte une moyenne pondérée de oméga puissance K avec S de Q de oméga considéré comme une densité spectrale, et ça c'est ce qu'on appelle le moment d'ordre K, et j'ai établi trois formules, trois relations intéressantes parce qu'elles sont indépendantes du modèle, elles sont exactes. Le moment d'ordre 0, c'est tout simplement N fois le facteur de structure statique, le moment d'ordre 1, c'est-à-dire l'intégrale sur oméga de SQ oméga qui multiplie oméga, ça rappelle beaucoup la force d'oscillateur en physique atomique, et de même que la force d'oscillateur sommée sur tous les niveaux finaux, final atteint à partir d'un état initial obéi à la règle de somme de Thomas, Kuhn et Reich, il y a une règle de somme très importante qui est M1 de Q égale N fois H bar Q2 sur 2M. Enfin, le moment d'ordre moins 1, qu'on remplace ici K par moins 1, est tout simplement relié, moins H bar sur 2, à la susceptibilité statique du milieu. Comment le système réagit à une perturbation indépendante du temps, une perturbation statique. Alors aujourd'hui, j'aborde donc un nouveau chapitre qui est l'illustration de ces notions générales sur un cas simple, qui est le cas d'un condensat homogène. Donc je vais introduire les facteurs de structure, étudier les facteurs de structure et les polarisabilités pour un condensat homogène. Et je vais étudier successivement la diffusion d'un photon et la diffusion d'un atome par un condensat homogène. Alors le but de ce chapitre est multiple. D'abord, c'est un exemple sur lequel on peut illustrer concrètement toutes les notions générales qu'on a introduites précédemment, sur lesquelles on peut vérifier les règles de somme, sur un modèle approché permettant d'étudier la dynamique du condensat, qui est le modèle de la théorie de Mogodubov. Également, si on étudie la diffusion d'une particule atomique, si on prend un atome, qu'on l'envoie un atome dans un condensat homogène avec une vitesse g, et qu'on calcule la section efficace totale de diffusion, on va voir que cette section efficace totale de diffusion s'annule rigoureusement quand la vitesse est inférieure à une certaine valeur critique. Et ça, c'est le phénomène fondamental de superfluidité. C'est que, en dessous d'une certaine vitesse critique, une particule microscopique matérielle, pas un photon, un atome, à ce moment-là, ne circule dans le condensat sans subir aucune collision, sans aucune friction. Donc, comme on peut faire tous les calculs jusqu'au bout, j'ai pensé que cet exemple était simple et servait de transition au cas réel des condensats inhomogènes, des condensats qui sont piégés. Alors, j'ai pas voulu couper le cours en deux, donc j'ai fait un grand nombre de transparents, j'aurai pas le temps de les faire tous. Ce que je compte faire aujourd'hui, c'est les 1, 2, 3, les trois premières parties. Et je laisse à la prochaine fois donc la diffusion d'un atome par un condensat homogène et la superfluidité. Donc, qu'est-ce qu'on entend d'abord par un condensat homogène? C'est un système qui n'a pas de potentiel de piégeage. En réalité, un vrai condensat homogène serait contenu dans une boîte de très grande dimension avec évidemment des parois réfléchissantes. Mais ici, j'en ai discuté en détail il y a 2 ans dans le cours sur les interactions et je ne reprendrai pas. On prend une boîte simplement avec des conditions limites périodiques. On n'introduit pas, disons, de pression aux extrémités de la boîte qui contient le condensat. Donc on n'a pas de potentiel de piégeage, une densité spatiale indépendante de R à l'état d'équilibre et on prend des conditions limites périodiques dans un cube de côté L. Alors la Hamiltonienne dans ce cas-là est très simple. H, c'est somme sur I de 1 à N de pi carré sur 2M, Hamiltonienne d'énergie cinétique, plus la somme des interactions entre paires de particules. Le 1,5, c'est pour ne pas compter la même paire deux fois, hein. C'est 1,5 somme sur I, somme sur J, différent de I, de B de RI moins RJ. Alors, comme il est courant dans ce type de problème, il est d'usage de remplacer le vrai potentiel par un pseudo-potentiel qui a conduit à la même longueur de diffusion. J'ai discuté en détail toutes les difficultés associées à cette approximation il y a 2 ans, donc je ne reviens pas dessus. Je me contente donc de dire qu'on prend un potentiel de la forme G delta, une fonction delta, G delta de RI moins RJ, où G est une constante de couplage, et G est ajusté pour retrouver la même, à l'approximation de bande, la même longueur de diffusion que le vrai potentiel. Donc on a G égale 4 pi h bar 2 sur M, où M est la masse des particules, que multiplie petit a, où petit a est une longueur très importante, qui est la longueur de diffusion du vrai potentiel. Alors, en général, je vais commencer par étudier un petit peu d'abord, si vous voulez, les propriétés statiques d'un tel système. Alors, vous savez que pour trouver l'état fondamental d'un tel système, la méthode la plus simple et la plus directe consiste à prendre une méthode variationnelle et de se poser la question, quel est le meilleur état produit, phi de 1, phi de 2, phi de i, phi de n, où tous les atomes seraient dans le même état phi. Alors, si on cherche et on fait varier phi pour chercher quel est le meilleur état produit, c'est-à-dire qui minimise la valeur moyenne de H dans un tel état. Et qu'on fait ceci, quand on cherche le minimum de la valeur moyenne de H, c'est-à-dire psi 0, H, psi 0, psi sur psi, psi 0, psi 0, en prenant pour psi 0 un produit d'état, tous les mêmes, psi, on tombe, le théorème des variations, l'application du théorème des variations, conduit à une équation très simple pour phi, qu'on appelle l'équation de Gross-Pitaïsky, qui joue un rôle central dans tous ces problèmes, et qui est moins h bar 2 sur 2m, laplacien phi, terme d'énergie cinétique, plus, il n'y a pas de terme d'énergie potentielle, puisqu'il n'y a pas de potentiel de piégeage, plus n moins 1 g phi de r au carré, en module que multiplie phi de r, phi de r au carré, ce terme-là, ce deuxième terme, représente l'interaction de chaque particule avec le champ moyen, le potentiel moyen créé par les n moins 1 autres. Il y en a n moins 1, leur densité est phi de r au carré, et le constant de couplage g, donc ça représente donc l'interaction de chaque atome avec le champ moyen créé par les n moins 1 moins autres, et ensuite au deuxième membre on a mu phi de r. Donc ça ressemble à une équation de Schrödinger, ça n'est pas une parce qu'elle est non linéaire. Alors dans le cas d'un potentiel de piégeage nul, cette équation est triviale à résoudre, et la solution est immédiate. La solution est phi de r égale uniforme, et pour normaliser à l'unité dans un cube de côté L, on a 1 sur L puissance 3/2. Alors si on prend cette solution, ce terme s'annule, puisqu'il n'y a pas de dérivée spatiale, ce terme me donne, on simplifie par phi, ce terme me donne mu égale g n moins 1, 1 sur L3, c'est-à-dire g n sur L3. Et qu'est-ce que c'est que n sur L3? C'est le nombre de particules dans le volume L3, c'est la densité spatiale, ρ0. Et on trouve donc que la solution de l'équation Gross-Pitaïsky, c'est une fonction d'onde uniforme, et le mu qui est ici, qu'on appelle le potentiel chimique, c'est mu égale g ρ0. Donc ρ0, c'est la densité spatiale, g n sur L3. Et ça, c'est le potentiel chimique. Donc ça, c'est l'état fondamental dont je vais partir. Et il y a une deuxième grandeur statique que je voudrais étudier maintenant. C'est la susceptibilité statique. Et pour étudier la susceptibilité statique, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que Gross-Pitaïsky, indépendant du temps. Et quel est le problème? Le problème, c'est qu'on va soumettre le gaz de boson à une perturbation statique de longueur d'onde bien définie, de longueur d'onde suffisamment grande, et ça ferait tendre vers l'infini à la fin des calculs, et on regarde comment le système répond. Donc on se pose la question suivante, quelle est la limite Q tendant vers 0 de la susceptibilité statique? Alors c'est un calcul simple qui ne nécessite pas de connaître les états excités de H. Alors, le système est soumis à quoi? Une perturbation extérieure faible, oscillant dans l'espace, mais indépendant du temps, U0 cosinus QX, hein, le long de l'axe X. C'est-à-dire qu'on soumet le gaz à un potentiel qui a des vallées et des montagnes, hein, qui a des creux et des bosses. Alors, les particules vont être attirées par les bosses, repoussées par les creux, et il va apparaître une modulation de la densité du système de boson. Jusqu'où ça va s'arrêter, les particules vont aller dans les creux, et s'il y en a beaucoup dans les creux, va empêcher les autres d'arriver, et il va y avoir un équilibre statique réalisé quand la répulsion des particules qui sont dans les creux empêche les particules d'arriver encore plus dedans, et on va obtenir une modulation spatiale de densité qui va dépendre du potentiel d'interaction, qui va dépendre de G. Donc la question qu'on se pose, on donne ce potentiel, quelle est la réponse de ρ, quelle est la composante modulée de ρ spatialement, donc, je vous rappelle que d'après le transparent de la dernière fois, T40, la réponse linéaire du système, on l'a définie par ρ devient ρ0 plus 1 sur L3 U0, proportionnel à la perturbation U0, linéairement, hein, on a une perturbation faible, qui la susceptibilité, et puis la même dépendance spatiale, cosinus QX, il n'y a pas de déphasage, parce que ici c'est une perturbation statique, il n'y a pas de retard. Hein, donc le problème, c'est est-ce qu'on peut calculer qui de Q. Et une fois qu'on aura calé, c'est intéressant de calculer qui de Q, parce qu'on vérifiera ensuite, tout à l'heure, cette règle de somme, qu'on aura calculé les moments du facteur de structure dynamique. Bon, alors là, je rappelle un résultat, et comme c'est un peu lointain, donc je vais le refaire très rapidement au tableau, je vous ai montré, d'abord, sous l'effet de la force appliquée, la force appliquée c'est le gradient du potentiel, les atomes vont s'accumuler au creux de potentiel. Et je vous ai démontré il y a 2 ans, dans le cours 98-99, je crois, au sein d'un fluide homogène régnait une pression, au sein d'un fluide régnait une pression 1/2 de rho de g rho de x au carré sur 2. Alors, je vais le redémontrer très rapidement ici, il y en a pour 2 lignes de calcul. Quelle est l'énergie moyenne du système de... D'abord, prenons un gaz homogène. Quelle est l'énergie moyenne d'interaction d'un gaz de n particules homogène contenu dans un volume g, interagissant par un potentiel g delta de R1 moins R2. Alors, j'ai n particules. Si n particules interagissent avec les n moins une autre qui créent une densité n moins 1 sur v, l'interaction, c'est donc g fois n, la densité des autres, et 1/2, pourquoi? Parce que il ne faut pas que je compte 2 fois l'énergie d'une paire. Donc, l'énergie d'interaction moyenne de n particules dans un volume v, c'est ceci, c'est donc e de nv, et en remplaçant n moins 1 par n, parce que n est très grand devant 1, c'est 1/2 de g n2 sur v2, qui est g rho de x, rho au carré, rho de r au carré. Non, excusez-moi, je vais trop vite. 1/2 de... g n2 sur v. Bon, maintenant, quelle est la pression? La pression, si l'énergie dépend du volume, c'est moins... on a du égale moins pdv, donc la pression, c'est moins du sur dv, ou la dérivée partielle de l'énergie par rapport au volume, c'est donc moins d sur dv. C'est donc moins 1/2 de g n2 sur v2. Et n2 sur v2, c'est n sur v au carré, c'est moins 1/2 de g rho de x, rho au carré, rho de r au carré. Alors ça, c'est pour un système homogène. Si le système n'est plus homogène, mais varie, rho varie suffisamment lentement dans l'espace, on peut considérer qu'on a une pression qui dépend de r et qui est donnée par cette formule. Bon, maintenant... Quelle est la force moyenne exercée sur une particule et liée aux autres? Si on prend un problème à une dimension, si on prend l'axe X, je me place au point X plus DX, et si je prends un élément S ici, de surface S, ici j'ai une pression P de X plus DX, ici j'ai une pression P de X, donc la force totale qui va agir sur cet élément du fluide, ça va être S moins S, parce que c'est dirigé dans ce sens, P de X plus DX plus S P de X, c'est-à-dire moins S gradient P DX, c'est-à-dire moins gradient P DV, puisque DXS c'est l'élément de volume. D'accord? Donc ça c'est la force exercée. S'il y a plus de particules là que là, il va avoir une force négative. Et combien il y a de particules dans ce volume? C'est rho dv. Donc, si je prends la force totale agissant sur cet élément de volume et je divise par le nombre total de particules dans ce volume, j'ai le nombre, la force agissant par particule, c'est moins 1 sur rho gradient P. C'est ce que j'ai mis ici. Alors je m'excuse, il y a une erreur, c'est pas 2 ici. C'est moins 1 sur rho de x gradient P de x. Alors attendez, le 2, il va arriver, mais il est... Ah oui, là il y a un 2 en trop. Excusez-moi, vous avez raison. Ici, là. Vous avez raison, bien sûr. Non, parce que la dérivée d'un sur V, c'est moins 1 sur V2, moins 1 sur V2, et si moins par si moins, ça donne un signe plus. vous avez raison, c'est plus. C'est plus ça, c'est plus ça. Non, c'est moins D sur DV, D sur DV de 1 sur D, c'est moins 1 sur D2, et puis sinon, ça donne plus. Ici, c'est correct. Donc, la force est moins 1 sur rho gradient P, et gradient P, c'est, il y a le facteur 2 qui s'en va, c'est rho G gradient rho, et donc la force qui s'exerce par particule liée au gradient de densité, c'est moins G gradient rho. Donc vous voyez, s'il y a un gradient de densité, il y a une force qui s'exerce par particule, et le système atteint l'équilibre quand cette force compense la force extérieure, qui est moins gradient U0 cosinus QX, c'est-à-dire quand la somme de ces deux quantités est égale à zéro. Et ceci, cette condition d'équilibre statique, va me donner tout de suite donc ρ de X et par suite qui. Alors, il y a une méthode, on peut retrouver ce résultat plus simplement. En utilisant l'équation de Gross-Pitaïski et en prenant maintenant l'équation de Gross-Pitaïski dans ce potentiel appliqué U0 cosinus QX. À ce moment-là, l'équation de Gross-Pitaïski s'écrit moins H bar 2 sur 2M D2 sur DX de phi plus U0 cosinus QX phi plus NG phi de X en modulo carré phi de X égale mu phi de X. Et à la limite où Q tend vers 0, c'est-à-dire à la limite des très grandes longueurs d'onde, l'énergie cinétique qui est liée au confinement devient négligeable, donc je peux négliger le premier terme de l'équation, c'est l'équivalent de l'approximation de Thomas Fermi, et j'obtiens une équation algébrique à ce moment-là, qui, en simplifiant par phi, me donne U0 cosinus QX plus NG phi de X en modulo carré nu, ça c'est l'équation de Gross-Pitaïski, et si je prends le gradient de cette équation, et si j'utilise que le gradient de mu est nul, puisque le potentiel chimique est uniforme partout, j'obtiens le gradient de U0 cosinus KX plus n fois G, le gradient de phi de x au carré, n phi de x au carré, c'est rien d'autre que rho de x. Donc j'ai moins gradient de U0 cosinus QX, moins G gradient rho de x égale 0, j'obtiens la même condition tout à l'heure. Alors, si je rappelle ici, la définition de qui, c'est la modulation spatiale de densité produite par U0, si je remplace cette expression, si je remplace dans cette expression l'expression de Rodeuil qui est là-bas, le gradient U0 cosinus Kx se simplifie, et je tiens tout simplement G égale pi égale moins L3 sur G, donc ça je vais le garder parce que j'en aurai besoin tout à l'heure, donc pi égale moins L3 sur G. Je multiplie, je divise par N. Je vais voir donc moins N. N en bas. N sur L3, 0. Moins N. 1 sur G0, 0. Et qu'est-ce que c'est que G0, 0? C'est le potentiel chimique. Donc, la susceptibilité statique, c'est moins N sur mu. Un résultat extrêmement simple. Et facile à comprendre, il est négatif, hein, c'est qui c'est en quelque sorte une compressibilité. Quand j'applique une pression, je diminue le volume, donc c'est négatif. Donc et d'autre part, on voit que plus mu est grand, c'est-à-dire plus G est grand, plus les particules se repoussent, plus c'est difficile à comprimer. Donc la compressibilité statique est inversement proportionnelle à mu, et donc inversement proportionnelle à G, elle est inversement proportionnelle à la répulsion entre les particules. Voilà un exemple de calcul très simple. C'est à partir de l'équation de Gross-Pitaïski. Alors, je passe maintenant à l'étape suivante, qui est les propriétés dynamiques. Et à la théorie de Bogoliubov. Alors, il n'y a rien à faire pour les propriétés dynamiques. J'ai besoin de connaître les états excités du système, et la méthode variationnelle que j'expliquais tout à l'heure ne donne pas, ne donne que l'état fondamental. Il y a bien sûr aussi l'équation de Gross-Pitaïski dépendante du temps qui permettrait de calculer les c'est à exciter, mais en fait, ça revient à faire la théorie de Bogoliubov. Et donc, pour calculer les facteurs de structure et les polarisabilités, il faut connaître les états excités de H, Il faut connaître leurs énergies. Et pour cela, on va utiliser donc soit la théorie de Kroswitalski dépendant du temps, soit la théorie de Brudibov. Je l'ai déjà fait il y a 2 ans, je vais donc très rapidement rappeler brièvement les résultats de cette théorie, parce qu'on en aura constamment besoin par la suite. Je rappelle que c'était une diagonalisation approchée de H à une certaine limite, une limite des très basses températures, quand T est très inférieur à la température critique et où par conséquent le nuage thermique est complètement négligeable, peut négliger les atomes thermiques, et également un milieu dilué, la densité spatiale rho 0 que multiplie A au cube, où dans un volume donné par le cube de la longueur de diffusion, il y a très peu d'atomes. Et l'avantage d'un milieu homogène, c'est que dans ce cas-là, on peut avoir des résultats analytiques, on peut donc vraiment comprendre ce qu'on fait. Donc, quelques rappels très brefs sur la théorie des Brudibov. D'abord, très rapidement, le principe. Alors, on part comme toujours de l'Hamiltonien. En seconde quantification, donc on prend la base des ondes planes, 1 sur L3 demi puissance IKR. On développe l'opérateur champ, l'opérateur destruction de Fourier sur les opérateurs AK, sigma K de 1 sur L3 demi puissance IKR AK. Et psi croix, c'est la même chose avec un AK croix et une puissance moins IKR. L'Hamiltonien, c'est la somme de l'Hamiltonien non perturbé, somme sur K de epsilon K à K croix à K, où epsilon K c'est l'énergie cinétique H bar 2 K2 sur 2M, que je vais réécrire tout au long de ce cours et dans la suite des séances, je vais introduire une fréquence associée à l'énergie cinétique K, que j'appelle la fréquence oméga K0, et qui est définie par donc oméga K0. Donc ça c'est la fréquence associée à l'énergie cinétique K2 sur, H bar 2 K2 sur 2M, et c'est H bar K2 sur 2M. Quant à la Hamiltonienne d'interaction, en seconde quantification, il s'écrit comme ça. Hein, il y a V qui est un sandwich entre 2 psi et 2 psi croix, avec un demi. Et quand je remplace psi et psi croix par leur expression ici, et que je fais l'intégration sur R et R', on obtient un produit de 4 opérateurs, 2 de destruction, 2 d'annihilation. Et vous voyez très clairement ici que je détruis une particule K moins K, K2 plus K, je crée K1, K2. Donc, l'impulsion totale détruite, K1 plus K2, est égale à l'impulsion totale créée, K1 plus K2. Il y a conservation de l'impulsion totale. Donc l'Hamiltonien en seconde quantification conserve l'impulsion totale. Quand deux particules entrent en collision, l'impulsion totale initiale est égale à l'impulsion totale finale. Et j'ai un G sur 2L3, et je rappelle également donc que ρQ, c'est l'expression que j'ai écrite là. Et on va simplifier cet Hamiltonien en utilisant le fait qu'il y a un état qui est beaucoup plus peuplé que les autres. Comme je suis très en dessous de la température critique, l'état K égale 0 contient un nombre de particules beaucoup plus grand que tous les autres états. On va transformer cet Hamiltonien avec cette condition. Alors, le principe consiste à négliger tous les termes de H effectif, de H, pardon, qui ne contiennent pas au moins deux opérateurs A0 et A0 croix. Tous les autres, ceux qui contiennent un ou zéro opérateur A0, 0 croix, ils sont tout petits et je les néglige. Et d'autre part, comme le nombre de particules dans l'état 0 est très grand, je vais négliger le fait que A0 et A0 croix ne commutent pas entre eux et remplacer les deux opérateurs A0 et A0 croix par un nombre qui est racine de n. Alors, si on fait ça, on a éliminé donc, on n'écarte finalement que des opérateurs contenant deux AK et ou AK prime croix, et on va tomber sur la Hamiltonienne quadratique. Alors, je rappelle que, attention, le terme qui contient quatre opérateurs A0, c'est un peu sauvage de remplacer tous les A0 par racine de n. Il faut travailler un peu plus. On l'écrit comme ça. On remplace A0 croix 0 par A0 A0 croix moins 1. Ça fait apparaître ceci. G sur 2L3 A0 croix 0 au carré moins 0 croix 0. Ça fait N2 N0 carré moins N0. Et on remplace A0 croix 0 par N moins la somme de tous les autres états. Le nombre de particules qu'il y a dans l'état 0 est égal au nombre total de particules moins le nombre de particules qu'ils ont dans les états autres que A0. Et qu'on fait ça, on trouve que ce terme, c'est pas tout simplement N2, mais il y a un terme en plus ici, moins 2N, sigma K différent de 0 de AK croix AK. Donc, quand on a fait ce traitement spécial pour ce terme et qu'on a fait ces approximations, on aboutit, je vous fais grâce des calculs, hein, ils sont pas compliqués, on aboutit pour l'Hamiltonien approché à un terme qui contient une constante, un terme d'énergie cinétique, des états K différents de 0, et une forme quadratique ici, qui est AK croix AK, A moins K croix A moins K, ça se ressemble à ça, et puis ici, deux opérateurs de création, AK croix A moins K croix, et deux opérateurs de destruction, AK moins K. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'Hamiltonien conserve l'impulsion totale, puisque je détruis et je crée une particule de même impulsion, je ne change pas l'impulsion totale, ou ici, je crée deux particules, où j'en détruis deux, mais d'impulsion totale nulle. Je crée une paire K moins K dans l'impulsion totale est nulle, ou je détruis une paire K moins K dans l'impulsion totale est nulle. Donc, l'Hamiltonien auquel j'arrive est plus simple, il est quadratique, et il conserve l'impulsion totale. Alors, à ce moment-là, on sait très bien, d'après la théorie des oscillateurs harmoniques couplés, que quand on a un Hamiltonien quadratique en A et A croix, on peut toujours le diagonaliser par un changement. On introduit ce qu'on appelle les modes normaux de vibration. Quand on a une chaîne d'oscillateurs couplés, on peut toujours introduire des nouveaux oscillateurs, des modes normaux qui évoluent indépendamment les uns des autres. Et moi, ce que j'aime bien pour aborder ce problème, pour savoir quelle combinaison linéaire il faut prendre, c'est raisonner de la manière suivante, c'est de dire, prenons l'opérateur AK, comment il évolue? On écrit IH bar A'K égale le commutateur de AK avec H effectif. Et le commutateur de A avec une fonction de A et A croix, c'est la dérivée de la fonction par rapport à A croix. Donc c'est DH effectif sur DH A croix. Et comme H effectif est une fonction linéaire de A et A croix, quand on en prend la dérivée par rapport à K croix, on va avoir une forme linéaire. Et on obtient effectivement IH bar AK prime égale un coefficient fois AK plus un autre coefficient fois A moins K croix. Donc ce petit calcul montre que l'évolution de AK est couplée à AK et à A moins K croix. D'où l'idée de maintenant calculer l'évolution de A moins K croix. On prend IH bar A moins K croix prime, c'est le commutateur de A moins K avec H effectif croix, et ça c'est moins DH effectif sur D A moins K. Là encore, on peut calculer cette dérivée de manière triviale. Et on obtient que IH bar A moins K croix prime égale un certain coefficient A moins K croix plus un autre coefficient AK. Et si je compare maintenant ces deux équations, j'ai deux équations fermées qui montrent que AK et A moins AK croix évoluent, ils sont couplés l'un à l'autre, mais à rien d'autre. Donc on a un système de deux équations couplées, linéaires, qu'on diagonalise par une opération triviale, et on calcule immédiatement les valeurs propres, en calculant les valeurs propres du déterminant de ce système de deux équations deux par deux. Donc il faut calculer les valeurs propres de cette matrice, et un calcul très simple donne à ce moment-là que les valeurs propres sont plus ou moins h bar oméga k Bogoliubov, l'indice B c'est pour Bogoliubov, et je les écris ici, donc on trouve que oméga k Bogoliubov égale racine carrée, alors je vais mettre ici un h bar, de h bar oméga k0 h bar oméga k0 plus 2 mu. Ou mu, le potentiel chimique. Hein. Donc j'obtiens une relation de dispersion qui va me donner maintenant donc les nouvelles énergies des excitations élémentaires du système. Quant au vecteur propre, évidemment, c'est une combinaison linéaire de AK et A moins K croix et B moins K croix, c'est une autre combinaison linéaire orthogonale à la précédente de AK et A moins K croix. Alors, les coefficients UK et VK sont réels, ils ne dépendent que du module de K, et je vais les normaliser, je peux toujours choisir une normalisation des vecteurs propres, je vais les normaliser de façon que les opérateurs BK et BK croix obéissent à la relation de commutation fondamentale de l'oscillateur harmonique BK, BK croix égale 1. Et quand on met ceci là-dedans, on trouve que les coefficients UK et VK qui sont ici satisfont à UK carré moins VK carré égale 1. Alors, si UK carré moins VK carré est égal à 1, il est justifié d'introduire un angle hyperbolique et de poser UK égale cosinus hyperbolique θk, VK égale sinus hyperbolique de θk. Ça satisfait automatiquement UK carré moins VK carré égale 1. Et quand je remets ça dans l'équation valeur propre, je trouve immédiatement que pour que ce soit un vecteur propre, il faut que tangente hyperbolique de 2θk soit égale à g0 sur h bar oméga k0 plus mu, c'est-à-dire mu sur h bar oméga 0k plus mu. Alors, récapitulation, je suis passé des opérateurs A à croix à des opérateurs B, B croix, et les formules qui me donnent BK et B moins K croix en fonction de AK et A moins K croix sont écrites ici, et l'inversion de ce système me donne les formules qui me donnent A et A croix en fonction de B et B croix. Alors je m'excuse, je dis ici en croix, maintenant on est dans le texte. On a donc deux équations qui me donnent AK et A moins K croix en fonction de BK et B moins K croix. Et quand on fait ceci, et qu'on reporte dans la Hamiltonienne approchée, on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a diagonalisé la Hamiltonienne approchée, c'est-à-dire qu'on a mis la Hamiltonienne approchée sous la forme d'une constante plus une somme sur K de H bar oméga K Bogoliubov que multiplie BK croix BK. Alors, ça a une interprétation physique très claire. Ça veut dire que le système a des équations, des excitations élémentaires, et que les opérateurs BK et BK croix créent ou détruisent, le BK détruit, BK croix crée, une excitation élémentaire de vecteurs d'onde K et d'énergie oméga K Bogoliubov, H bar oméga K Bogoliubov, et la relation de dispersion est donné par cette formule. Alors, il est intéressant de regarder plus en détail cette relation de dispersion parce qu'elle nous permet de discerner deux régimes de comportement très différents. Si je prends, vous voyez que je vois apparaître l'énergie cinétique libre associée à K et le potentiel chimique. Alors, si je prends d'abord H bar oméga K0 très très petit devant le potentiel chimique, si je prends un grand potentiel chimique et une faible valeur de K, à ce moment-là, dans cette parenthèse, je peux simplifier, je peux négliger ce terme, et j'obtiens donc H bar oméga K Bogoliubov égale 2 racine carrée de 2 H bar oméga K0 mu. Ceci, c'est H bar 2 K2 sur M. Et en prenant la racine carrée de H bar 2 K2 sur M, j'obtiens H bar K. Le H bar simplifie, et j'obtiens un résultat très important, c'est que, au faible vecteur d'onde, quand H bar oméga K0 est très petit devant mu, à ce moment-là, oméga K Bogoliubov est tout simplement une constante que multiplie K, la constante étant donc une vitesse qui est égale à racine de mu sur m. On trouve donc une relation de dispersion linéaire caractéristique des phonons. Donc à basse énergie, pour un grand potentiel chimique, pour une faible énergie cinétique, on trouve des excitations élémentaires qui sont de type phonon, qui se propagent avec une vitesse C, qui est donnée par la racine carrée du potentiel chimique divisé par la masse. Ça, c'est un premier résultat très important, relation de dispersion linéaire. Si par contre, je prends maintenant l'autre limite, où l'énergie cinétique H bar oméga K0 est très grande devant mu, en mettant dans le deuxième terme, qui est ici H bar oméga K0 en facteur, et en sortant, je marque le H bar, j'ai H bar oméga K0 au carré, je le sors du radical, j'obtiens H bar oméga K Bogoliubov égale H bar K oméga 0 racine carrée de 1 plus 2 mu sur H bar oméga K0, et si mu est tout petit devant H bar oméga 0, je peux développer le radical, et c'est 1 plus 1 demi fois ça, et j'obtiens donc, pour l'autre limite, H bar oméga K0 grand devant mu, je trouve que H bar oméga K Bogoliubov est à peu près égal à H bar oméga K0 plus mu. Et à ce moment-là, les excitations ont une énergie qui varie quadratiquement avec K, comme H bar de K2 sur 2M, donc c'est des excitations de type particule libre. Alors, on peut se poser la question, quel est le régime, quelle est la valeur de K0 qui sépare ces deux régimes? C'est la valeur pour laquelle H bar oméga K0 est égal à mu, c'est-à-dire H bar 2 K2 0 sur 2M égale G0, 0, et G c'est 4 pi H bar 2 sur M, 4 pi H bar 2 sur M A0, A, je simplifie par H bar 2 sur M, et j'obtiens K02 égale 8 pi A0, et je vois apparaître ici 1 sur Xi02, où Xi0 c'est 1 sur racine de 8 pi A0, c'est une grandeur très importante pour un condensat homogène qu'on appelle, j'avais appelé la longueur de relaxation, qu'on appelle aussi en anglais le healing length, qu'on appelle aussi des fois la longueur de cohérence, qui par exemple, quand on met un condensat dans un récipient, un vrai récipient, fait que la densité de particules part de zéro et atteint la valeur uniforme sur une distance qui est la longueur de relaxation psi 0. Si on a un tourbillon, un vortex, également le cœur du vortex a une dimension spatiale de l'ordre de psi 0. Donc psi 0 est une grandeur typique. Et on voit donc que pour les longueurs d'onde plus grandes que psi 0, on a des phonons. Pour les longueurs d'onde plus petites que psi 0, on a des particules libres. Et tous ces résultats sont résumés là-dessus, sur cette figure, qui donne donc la relation de dispersion. Alors ici, j'ai tracé la relation, la parabole qui donne la relation de dispersion d'une particule libre, h bar k2 sur 2m. Ici, la même parabole mais décalée de mu vers le haut, h bar k2 sur 2m plus mu. Et la relation de dispersion de la théorie de Bogodybov, c'est donc une courbe qui part avec une pente ici non nulle, une pente c égale racine de mu sur m, et qui rejoint la parabole du dessus. C'est-à-dire que quand je suis à grand K, ici, quand on crée une particule, elle est pratiquement libre, simplement quand elle est créée, elle a une énergie supérieure à l'énergie d'une particule d'énergie cinétique, égale à mu, qui représente l'énergie avec les autres particules qui sont condensées. D'accord ? Par contre, quand on est ici, on a une onde collective, un phonon, qui se propage à la vitesse C. Enfin, le nouvel état fondamental, la constante est zéro. Je ne la rediscute pas parce que le calcul est assez complexe, je l'ai fait en détail il y a deux ans. Alors par contre, la fonction d'onde, on la comprend facilement, la fonction d'onde, psi 0, doit être, c'est le nouveau vide des opérateurs B, c'est-à-dire que, quel que soit K, BK agissant sur le nouvel état fondamental doit donner 0. Donc, psi 0 est tel que BK agissant sur psi 0 donne 0 quel que soit K. C'est-à-dire que j'ai une équation qui me définit psi 0, qui est cosinus hyperbolique θ k à k plus sinus hyperbolique θ k moins k3 agissant sur psi 0 égale 0. Je voudrais juste, sans entrer dans le détail des calculs, vous donner une idée de quelle est la structure du nouvel état fondamental. Avant l'interaction, l'état fondamental, c'est toutes les particules dans l'état k égale 0. Quand les particules interagissent, quand il y a une collision entre deux particules, il y a deux particules k égale 0 qui interagissent, pour donner quoi? Une paire, forcément, d'impulsion totale nulle, une paire q moins q. Donc, l'état fondamental, c'est une superposition linéaire de l'état n0 égale n, toutes les particules dans l'état n, tous les autres états vides, puis superposition linéaire d'autres états où il y a deux particules de moins condensées, n0 égale n moins 2, et une paire k moins k, c'est-à-dire nk égale plus 1, n moins k égale plus 1. Toutes les autres, nombre d'occupations étant nul. Et ainsi de suite, je pourrais aussi avoir n0 égale n moins 4, et puis deux particules k et deux particules moins k. Donc c'est une structure très complexe qu'on pourrait écrire, et vous voyez donc à ce moment-là que le vrai état fondamental a une structure plus compliquée que l'état fondamental non perturbé où toutes les particules sont dans l'état n0. Alors maintenant, j'ai de quoi aborder le point suivant qui est les facteurs de structure. Et d'abord, les facteurs de structure dynamique. Alors, j'ai réécrit l'expression qui est là-bas. Donc, j'ai SQ oméga, somme sur F de psi 0. Maintenant, je pars de l'état fondamental psi 0, rho cube psi F en module au carré, delta de oméga moins, ici, on va lui mettre un 0, et F moins E0 sur H bar. Alors, si je regarde cette expression, et si je me rappelle d'un résultat que j'ai annoncé il y a deux séances, que ρ q est un opérateur de translation, ça apparaît très clairement sur les expressions de ρ q. ρ q, c'est une somme d'opérateurs, chacun translate l'impulsion de quantité h bar q. Donc, ρ q, agissant sur un état d'impulsion bien défini, me donne un nouvel état d'impulsion bien défini, décalé de h bar q. Comme l'état fondamental a une impulsion totale nulle, j'en déduis que ρQ, agissant sur l'état fondamental, me donne un état d'impulsion H bar Q. Et si je regarde la relation de dispersion de Brudibov, il n'y a qu'un seul état Dans cette approximation, ne vous occupez pas, il n'y a qu'un seul état excité, l'impulsion totale à la marque U, qui est l'opérateur BQ croix, opérateur création d'une excitation élémentaire d'impulsion à la marque U, agissant sur le vide. Donc dans cette somme, ici, sur Psi F, il n'y a qu'un seul terme qui apparaît à cause de la conservation de l'impulsion. D'accord ? Le recul crée une impulsion à la marque U, et donc il n'y a qu'un seul état excité d'impulsion à la marque U, donc cette somme sur F ne contient qu'un terme. Ceci me ramène d'ailleurs, je ne vois pas, mais la semaine dernière, à la fin du cours, Chris Westbrook m'avait posé une question, est-ce que c'est, on a un continuum d'état final, dans le cadre de la théorie de Bogoliubov et avec un condensat homogène, il n'y a qu'un état final. À cause de la conservation de l'impulsion. Et à ce moment-là, la diffusion de Bragg correspond plutôt à une précession de Rabi, une oscillation de Rabi entre l'état initial et l'état auquel on est couplé, le seul état auquel on est couplé par la perturbation. Ça, c'est pour la diffusion stimulée. Si j'ai une diffusion spontanée, bien sûr, le photon spontané peut avoir n'importe quelle énergie et je retrouve un continuum. À ce moment-là, je peux définir une probabilité de transition par unité de temps. Donc, en toute rigueur, il faut faire attention, la règle d'ordre de Fermi ne s'applique pas exactement à ce problème, mais c'est un peu formel parce que les expériences, elles, sont réalisées sur des condensats qui ne sont pas infinis, qui sont finis, et à ce moment-là, il y a un continuum d'état final parce que l'impulsion n'est plus un bon nombre quantique. Et je reviendrai bien sûr sur ce problème pour lorsque j'étudierai le facteur de structure d'un condensat homogène. Par contre, pour la diffusion spontanée, pour la diffusion d'un atome par un condensat, où on ne contrôle pas l'état final, où l'état final peut être n'importe lequel, à ce moment-là, évidemment, la règle d'ordre de Fermi s'applique. Alors, si je regarde ça, et si je regarde l'élément de matrice de psi 0, de rho q entre psi 0 et psi q, en module au carré, c'est psi 0, rho q, psi q, rho q croix, psi 0. Là, je ne peux pas mettre une relation de fermeture, c'est un seul état, mais rien ne m'empêche de mettre sigma q prime de psi q prime ici, étant bien entendu que tous les états q prime différents de q, à cause de la conservation de l'impulsion, l'élément de matrice correspondant sera nul. Donc, comme il y a un seul état qui est couplé par conservation de l'impulsion, je peux mettre ici somme sur Q' de Psi Q', j'ajoute des termes qui sont nuls, à ce moment-là, je peux utiliser la fermeture, et je trouve que Psi 0, Rho Q, Psi Q, en module au carré, c'est aussi la valeur moyenne dans l'état Psi 0 de Rho Q, Rho Q croix. Et par suite, S de Q de oméga apparaît comme Psi 0, Psi 0, l'élément de matrice diagonale de rho q croix rho q, qui multiplie delta de oméga moins oméga cubé, puisque l'énergie d'excitation élémentaire, c'est oméga cube au bout du bord. Et je vois tout de suite aussi que S de q, le facteur de structure statique, qui est l'intégrale sur oméga de S de q de oméga, l'intégrale de ci me donne 1, et je trouve tout de suite que S de q égale 1 sur n, somme de oméga de S q oméga, c'est 1 sur n, la valeur moyenne dans l'état psi 0 de rho q croix rho q. Donc ça aussi, c'est un résultat important, que je vais mettre là, S de Q égale 1 sur N, la valeur moyenne dans l'état psi 0, le vrai vide, de rho Q croix au Q. Et donc, au point de vue spectre, dans le cadre de la théorie de Bogoliubov, qu'on fait un spectre de diffusion d'une particule, on va trouver qu'une seule raie, pour un transfert d'impulsion Q, on va trouver qu'une seule raie, centré en oméga égale oméga cube Bogoliubov, et dont le poids est ns de q. N fois l'élément de matrice de rho q croix rho q dans l'état fondamental du condensat. Alors, ici, pour être cohérent avec ce qui précède, quand j'ai établi la Hamiltonienne de Bogoliubov, j'ai négligé des tas de termes. J'ai négligé les termes qui contenaient moins de deux opérateurs A0 et A0 croix. Il faut être cohérent avec cette approximation dans l'équation qui nous donne Rho Q. En effet, Rho Q ici, c'est ici, Rho Q contient deux opérateurs, un A et un A croix. Et Rho Q croix Rho Q va contenir quatre opérateurs, puisqu'il y a deux fois Rho Q, Rho Q croix et Rho Q. Et pour être cohérent avec ce qui a été fait pour la Hamiltonienne, il faut garder dans Rho Q croix Rho Q que les termes qui contiennent au plus deux opérateurs qui contiennent au moins deux opérateurs A0 et A0 croix. Alors pour qu'ils contiennent, pour que dans Rho Q croix Rho Q, il y ait au moins deux opérateurs A0 et A0 croix, il faut que dans reflux, il y ait au moins un opérateur A0 ou A0 croix. Donc il faut que je prenne une, pour être cohérent avec la théorie de Brue-Dubois, il faut remplacer dans reflux, par une expression approchée, le contenant au moins un opérateur A0 ou A0 croix. Évidemment, et les opérateurs qui contiennent A0, A0 croix, on remplace ensuite A0, A0 croix par racine de n. Sinon, on n'est pas cohérent avec soi-même. Hein. Alors, revenons à l'expression de Rocu. Elle est ici. Et je veux qu'il y ait... Alors, ou bien je prends AK égale à 0. À ce moment-là, AK plus Q est forcément... Si je prends K égale à 0 ici, AK plus Q est forcément égal à Q croix. Donc, un premier terme, ça va être AQ croix à 0. Ou bien je prends... Ce terme à 0 croix, donc je prends AK plus Q égale 0. Donc j'ai K plus Q égale 0. Donc j'ai K égale 0 moins Q, donc ici c'est 1 moins Q. Donc les deux termes que je dois garder dans cette double somme, c'est AQ croix à 0 plus A0 croix à moins Q. Ça c'est pour être cohérent avec l'approximation précédente. Et je remplace A0 et A0 croix par racine de N, et j'obtiens ρQ à peu près égal à racine de N, AQ croix plus A moins Q. Et évidemment, ρQ croix, l'hermétique conjuguée de ceci, racine de n, AQ plus A moins Q croix. Alors, à ce moment-là, si je prends cette formule-là, pour ρQ croix, cette formule pour ρQ, et si je les remets, je vais obtenir ceci. Alors je m'excuse, je ne sais pas pourquoi, mais dans ce transparent, il y a eu beaucoup d'erreurs que j'ai corrigées ici. Donc j'ai ρQ égale racine de n A plus croix plus A moins Q. Je remplace A plus croix et A moins Q par leur expression en fonction de BQ croix et de B moins Q, et j'obtiens cette expression-là. Et donc j'ai trouvé une nouvelle expression de ρQ, et je vous rappelle que j'ai à calculer, pour calculer le facteur de structure, j'ai à calculer la valeur moyenne dans l'étape psi 0 de ρQ croix à ρQ. C'est-à-dire aussi, je prends ce quête-là, ce bras, c'est le bras conjugué de ce quête, donc c'est le carré de la norme de ce quête. Donc je regarde ce quête ρQ psi 0. Maintenant, je sais que le vrai état fondamental psi 0 est tel que tout opérateur de destruction agissant sur ligne me donne 0. Donc dans ρQ, la seule chose qui va donner quelque chose de non nul lorsqu'il agit sur phi 0, c'est le terme d'opérateur de création BQ croix, ce terme me donne 0, et j'obtiens donc ρQ psi 0, c'est racine de n, cosinus hyperbolique de θq, moins sinus hyperbolique de θq, BQ croix agissant sur phi 0. Et maintenant, le facteur de structure statique, c'est 1 sur n fois le carré de la norme de ce vecteur, donc 1 sur n multiplié n va s'en aller, et j'obtiens donc cosinus hyperbolique de θq, moins sinus hyperbolique θ q, la valeur moyenne dans l'état psi 0 de BQ, BQ croix, et ça vaut 1, pourquoi? Parce que BQ, BQ croix, c'est 1 moins BQ croix, BQ, et que ce deuxième terme, comme j'ai un BQ qui agit sur psi 0 qui donne 0, ça me donne tout simplement 1. Donc finalement, j'ai trouvé une expression analytique pour le facteur de structure, S de Q, c'est cosinus hyperbolique θ q, moins sinus hyperbolique θ q, le tout au carré. Comme je connais l'équation qui me donne Theta Q, je vous ai dit tout à l'heure que Theta Q était tel que tangente hyperbolique de 2 Theta Q est donnée par cette formule. Des calculs élémentaires permettent à ce moment-là de calculer tout. Et on arrive au résultat extrêmement simple, suivant, que S de Q, le facteur de structure statique, c'est oméga K0, sur oméga K Bogodubov. L'énergie cinétique divisée par l'énergie de Bogodubov. Donc c'est un résultat extrêmement simple. Et vous voyez donc, dans ce cas particulier du condensat homogène, on a été capable de calculer analytiquement le facteur de structure statique. Alors, je voudrais maintenant discuter physiquement ce résultat, parce qu'il est très important. Étudier d'abord les diverses limites. Quand Q tend vers l'infini, H bar oméga Q0 est très grand, je m'excuse, ici c'est pas K, c'est Q, hein. S de Q, c'est oméga Q0 sur oméga Q Bobo Dubov. Alors, quand Q est très grand, plus précisément quand alpha oméga Q0 est très grand dans le potentiel chimique, je vous ai dit tout à l'heure que alpha oméga K Bobo Dubov est égal à alpha oméga Q0 plus mu, et à peu près égal à alpha oméga Q0. Donc, ces deux fréquences sont à peu près les mêmes. Et donc, on en déduit que le facteur de structure au grand Q statique tend vers 1. On obtient le même résultat pour des particules libres. Par contre, quand alpha oméga K0 est plus petit que mu, à ce moment-là, oméga QB n'est plus égal à oméga Q0, mais il est égal à CQ, ou C égale racine de mu sur M. Et ce rapport de deux fréquences est égal à H bar Q2 sur 2M divisé par CQ, c'est-à-dire H bar Q sur 2MC, et vous voyez que quand Q tend vers 0, H bar Q tend vers 0. Donc le facteur de structure statique tend vers 0 quand Q tend vers 0. Autrement dit, l'aptitude du système de boson à diffuser une particule avec un transfert d'impulsion Q devient de moins en moins grande quand Q tend vers 0. Il y a une suppression de la diffusion quand Q tend vers 0. Alors ça, c'est un résultat très important et qui a été observé expérimentalement. Je le décrirai dans un cours ultérieur. Évidemment, non pas sur un condensat homogène, mais sur un condensat inhomogène, sur un condensat dans un piège. Donc, il faut légèrement modifier les conclusions auxquelles j'arrive aujourd'hui pour tenir compte du fait que le condensat est piégé. Mais c'est un résultat important et je voudrais le discuter un peu plus ici. C'est que l'annulation de S de Q quand Q tend vers 0 est une conséquence des interactions. Ça n'existerait pas si je tenais pas compte des interactions. Donc c'est une manifestation très claire de l'importance des interactions. Et on peut le comprendre de manière quantique, de la manière suivante. Je vous ai dit tout à l'heure que l'état fondamental, le vrai état fondamental, c'était pas l'état où toutes les particules étaient condensées, mais c'était une superposition linéaire d'état n0,0 plus n-2, n plus q égale plus 1, n moins q égale plus 1. Alors, dessinons ici. C'est donc un état n 0, 0, et puis j'ai un état n moins 2, 1 q, 1 moins q. Et puis c'est toute une série d'états. Et le facteur de structure statique, c'est le carré de la norme du vecteur ρ cube psi 0 divisé par n. Alors, quand je fais agir ρ q sur un tel état, ρ q, il était donné quelques transparents précédents. Donc voilà, il est là, ρ q. Et ρ q croix est là. Alors, prenons ρ q. Quand ρ q agit sur psi 0, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a deux termes. Il y a ce terme-là. Et ce terme-là. Ce terme-là, qu'est-ce qu'il fait? Ce terme-là, qu'est-ce qu'il fait d'abord? A0, agissant sur un état à n, où n particules sont condensées, agissant là-dessus, il va me donner quoi? Il va diminuer n d'une unité, et puis il va créer une particule plus q. Donc, ce terme-là va être couplé à n moins 1. J'ai détruit une particule dans le condensat, et j'ai créé une particule plus q. Donc, n moins 1, 1 q. Et tout le reste 0. Par contre, ce terme-là, agissant sur cet état, donne 0 parce que l'état Q est inoccupé, et l'opérateur, l'état moins Q est inoccupé, l'opérateur A moins Q agissant sur un état inoccupé donne 0. Donc, ρ Q agissant sur cette composante du nouvel état fondamental me donne une composante sur ce terme-là. Regardons maintenant ρ Q agissant sur cette composante du vecteur d'état. Alors maintenant, A0 croix A moins Q, A0 croix va créer une particule de plus dans le condensat, ça va me donner N plus 1, et A moins Q me détruit une particule de moins Q, donc ça va me détruire ça à 0, et ça va me donner le même état. Par contre, l'autre terme ici, A0 à Q croix, bon, ça va me donner un autre terme, ça va me donner un terme où il y aura deux particules dans l'état Q, mais qui n'est pas celui-là. Mais vous voyez donc que Roku, agissant sur le nouvel état fondamental, qui est une superposition de tous ces états, va me donner un nouvel état, et qu'il va y avoir chaque composante de ce nouvel état va être peuplée à partir du vrai état fondamental par deux chemins. Et si vous calculez ces deux chemins, les deux amplitudes, elles interfèrent destructivement. Autrement dit, c'est la structure complète de l'état fondamental qui fait que Roku, agissant sur l'état fondamental, va donner un vecteur d'état dont la norme va être beaucoup plus petite à cause d'interférences destructives. Autrement dit, l'annulation de S de Q quand Q tend vers 0 reflète vraiment, donne des informations sur la structure détaillée de la fonction d'onde de l'état fondamental. Donc à ce titre, c'est intéressant de l'observer et de vérifier expérimentalement ce point-là. Bien. Donc, ce qu'on peut attendre sur les résultats des échéances de diffusion de la lumière, c'est qu'en faisant varier l'écart entre les fréquences des deux lasers qui induisent la transition rarement simulée, on s'attend à trouver une seule résonance étroite, centrée en oméga oméga cubé, et dont l'intensité tend vers zéro quand Q tend vers zéro, quand le transfert d'impulsion tend vers zéro. En fait, les expériences ont été réalisées sur un condensat inhomogène, piégé, et j'étudierai dans un cours ultérieur les modifications qu'il faut apporter à ces prédictions, mais dont l'essentiel est préservé. C'est-à-dire que l'intensité de la diffusion diminue quand Q tend vers zéro. Enfin, je voudrais maintenant, avant de m'arrêter là, je voudrais vérifier les règles de somme sur le modèle de Bogoliubov. Alors, d'abord la règle de somme sur M1, la règle de somme qui est ici, c'est là. Alors, c'est la règle qui est ici, M1 de Q égale N à bar Q2 sur 2N. Alors, qu'est-ce que c'est que M1 de Q calculé dans la théorie de Bogoliubov? C'est, il y a un seul état excité, donc c'est Psi 0, Rho Q, Psi Q, au carré en module, et il y a une seule fréquence, donc oméga cubé, donc M1 de Q, pour la théorie de Bogoliubov, c'est le produit de oméga cubé par cet élément de matrice. Cet élément de matrice au carré, j'ai montré que c'était psi 0, rho q croix rho q psi 0, et ceci, ce n'est rien d'autre que n s de q, puisque n s de q, c'est n sur n fois cette quantité-là. Donc, dans le cas de la théorie de Bogoliubov, m1 de q de b, c'est n s de q oméga cubé. Or, s de q, c'est oméga q 0 sur oméga cubé. Donc, ça simplifie, et j'obtiens M1 de Q, dans le cas de la théorie de Bogoliubov, c'est N fois H bar Q2 sur 2M, ce qui n'est rien d'autre que ce que j'ai là-bas. Donc, la théorie de Bogoliubov satisfait la règle de somme sur M1. Donc, vous voyez, c'est toujours agréable ces règles de somme parce qu'elles sont exactes, et quand on fait un modèle approché, on peut vérifier qu'il satisfait bien ces relations exactes. Règle de somme sur M-1. Alors, M-1, d'après ce qui est écrit là, ce que j'ai fait la dernière fois, M-1, c'est moins h bar sur 2, la susceptibilité statique. Et la susceptibilité statique, j'ai calculé, c'est moins n sur mu. Donc, m moins 1 de q, c'est moins h bar qui statique sur 2, c'est donc n h bar sur 2 mu. Ça, c'est le résultat exact. Maintenant, dans le cas de la théorie de Bogoliubov, j'ai un seul état excité. Donc, j'ai un seul élément de matrice au carré, qui est ns de q, divisé par, comme c'est moins 1, il faut que la différence d'énergie soit dénominateur, oméga cubé. N, S de Q, c'est oméga Q0 sur oméga cubé. Donc c'est N oméga Q0 sur oméga cubé au carré. C'est donc N H bar Q2 sur 2M sur C de Q2. Les Q se simplifient au carré, là. J'ai donc N H bar sur 2M C2. Et C, c'est racine de M sur mu. Donc C2, c'est mu sur M. Donc c'est N H bar sur 2 mu. Et je trouve le même résultat que tout à l'heure. Donc là aussi, la théorie de Bogoliubov satisfait la règle de somme sur M-1. Donc, vous voyez, chaque fois que je peux faire un test, on vérifie donc que la théorie de Bogoliubov satisfait ce test. Et cette formule est intéressante aussi parce qu'elle nous montre pourquoi S de Q doit tendre vers 0. C'est une autre manière de voir pourquoi le facteur de structure statique doit tendre vers 0 quand Q tend vers 0. Et ça, c'est une approche plus macroscopique. Ici, j'ai donné une approche microscopique. J'ai pris la fonction d'onde de l'état fondamental et j'ai montré que quand on fait agir Roku sur lui, on a des chemins qui interfèrent, et je n'ai pas fait le calcul explicite ici, mais on peut montrer que cette interférence est destructive, et ça explique pourquoi le facteur de structure statique tend vers zéro. Ici, on a une approche plus globale. En effet, on voit que M-1, c'est S, au facteur N près, S divisé par oméga cubé. Quand Q tend vers zéro, la susceptibilité statique est une constante, n s bar sur 2 mu, ça ne dépend plus de Q. Un gaz, quand on le comprime, il a une compressibilité statique qui n'est pas nulle, et qui ne dépend pas de Q, pour Q suffisamment petit, pour des longueurs d'onde suffisamment grandes. Donc, cette quantité-là ne dépend pas de Q. J'ai n s de Q divisé par oméga cubé. Par contre, je sais que à basse, pour des basses valeurs de Q, c'est-à-dire pour des grandes longueurs d'onde, les excitations élémentaires sont des phonons. Donc, oméga Q de B est linéaire en Q. Donc, j'ai le facteur de structure divisé par quelque chose de linéaire en Q, et ça doit être constant. Donc, nécessairement, le facteur de structure doit être linéaire en Q. Il doit donc tendre vers zéro quand Q tend vers zéro. Donc, ça, c'est un argument macroscopique sur la compressibilité statique qui montre pourquoi le facteur de structure doit tendre vers zéro linéairement quand Q tend vers zéro. Autrement, on aurait une compressibilité qui ne serait pas constante à grande longueur d'onde. Ça, c'est une autre marque intéressante. Je passe sur le terme suivant qui me donne la polarisabilité dynamique, parce que je suis un peu en retard, il n'y a pas de remarque particulière à faire. Et je voudrais juste revenir sur quelque chose que j'ai annoncé la semaine dernière. Vous rappelez que la semaine dernière, j'ai calculé, pour la susceptibilité dynamique, j'ai calculé la réponse de ρQ à une perturbation sur ρQ croix. Et c'est ça ce que j'ai appelé qui de Q et d'oméga. Je perturbe le système sur ρQ croix et je regarde la réponse sur ρQ. Et puis je vous ai dit, mais je ne suis pas logique, pourquoi je ne calcule pas aussi la réponse sur ρQ croix d'une perturbation sur ρQ croix. Comment je n'ai pas calculé ρQ croix, ρQ croix. Qui ρQ croix, ρQ croix. Et la réponse peut la donner aujourd'hui. En effet, qui ρQ croix fait intervenir le produit d'éléments de matrice psi 0 ρQ croix psi n, psi n ρQ croix psi 0. Alors qu'aujourd'hui, ce que j'ai étudié, c'est ρQ croix. Hein, j'ai étudié ρQ croix. Et non pas ρQ croix. Alors ici, c'est facile à comprendre ce qui se passe maintenant. ρQ croix, c'est ρ moins q, ça transplate l'impulsion de moins h bar q. Partant de l'état fondamental psi 0 qui a une impulsion nulle, quand j'ajoute moins q, ça veut dire que l'impulsion de l'état psi n est l'impulsion de l'état 0, 0 moins q. Donc j'ai p0, pn moins p0 égale moins q. Donc là je me suis trompé, hein. P0 moins pn c'est plus h bar q. Donc cet élément de matrice n'est différent de 0 que si p0 moins pn égale plus h bar q. Et maintenant j'ai un deuxième élément ici. Je pars de psi n, je fais h0 q croix et j'arrive sur psi 0. ρQ croix transplace l'impulsion de moins Q. Donc j'ai P0 moins Pn égale moins Q, le deuxième élément de matrice. Donc cet élément de matrice n'est différent de 0 que si j'ai ça. Cet élément de matrice est différent de 0 que si j'ai ça. Et à ce moment-là, c'est forcément incompatible. Autrement dit, partant de cet état et faisant agir deux fois ρQ croix, je dois diminuer l'impulsion totale de moins 2 h bar Q, et alors je retombe sur le même état, donc ça ne marche pas. Donc la conservation de l'impulsion empêche ce produit de deux éléments de matrice d'être nul. Par contre, si j'ai un ρQ et un ρQ croix, l'un monte de h bar q, l'autre descend de h moins h bar q, donc partant de phi 0, je peux retomber sur phi 0. Si j'ai deux ρQ croix ou deux ρQ, ça ne marche pas. Donc, qui ρQ croix est nul, de même que qui ρQ ρQ. C'est uniquement qui ρQ croix ρQ ou qui ρQ ρQ croix qui ne sont pas nuls. Et ça, la conséquence, c'est que une excitation en U0 cosinus QR moins oméga T ne peut donner naissance qu'à une onde en cosinus QR moins oméga T de même vecteur d'onde et de même fréquence. Une excitation d'une onde progressive comme ça, une excitation par une perturbation progressive comme ça, ne peut pas me donner une réponse avec une onde progressive dans l'autre sens. Et ça paraît à peu près évident, mais vous voyez la démonstration mathématique ici. C'est une conséquence de la conservation de l'impulsion. Je ne peux pas, en excitant le système par une perturbation de vecteur d'onde dans cette direction, avoir une réponse avec un vecteur d'onde dans l'autre direction. Par contre, si le condensat est tout petit, il y a des réflexions sur les bords, et ça n'empêche pas. Mais pour un condensat homogène, c'est pas possible. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. j'ai étudié aujourd'hui ce qui se passe avec la diffusion d'un photon, et la semaine prochaine, j'aborderai la diffusion d'un atome neutre pour montrer en évidence le phénomène de superfluidité. Alors, comme la dernière fois, si l'un d'entre vous a posé une question, n'hésitez pas à le faire, on a encore quelques instants. Sinon, je vous rappelle ce que je vous demandais tout à l'heure, s'il y a 4 ou 5 volontaires pour regarder, vérifier que les CD marchent bien, qu'il n'y a pas d'erreur, je vous remercie par avance.